personnel non gréviste.
Qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Ce magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue. Les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All your little ways are a comedy of errors. You bellow with your fellows, get tamed like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like a shrew. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting so you see me. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about Timon, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Et bonsoir.
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 C'est Radio Canu, c'est la plus rebelle des radios, c'est 102.2 et c'est le soir et c'est l'heure du Canu Info. Alors avec ce soir on va commencer par parler de Ebola. Ebola un peu sous l'angle, merci le FMI. Et puis on ira en Irak. Et puis on ira. Ah oui, c'est ça. Et puis on ira un petit peu à Gaza, comme ça, faire un petit tour vite fait. Après, on ira sur les rives, puisqu'on s'intéressera aux riverains. Et après, on ira partout en tentant de traverser toutes les frontières du monde pour notre rubrique. Il faut que ça se sache. Et ben voilà.
Avec un envoyé spécial à Calais.
Mais oui, qui nous racontera entre autres le week-end dernier. Oui, il y a eu ces histoires de manifestations plus ou moins de manifestations de faf et de contre-manifestations et de matchs de foot. Enfin bon, bref, on aura toutes les infos tout à l'heure. Alors, Ebola, pourquoi est-ce qu'on va reparler d'Ebola? Eh bien, c'est à l'occasion d'un article dans l'Humanité de hier, en réalité. Un article qui s'appelle Ebola, terrible symptôme de la ruine des systèmes de santé. Et que je vais en partie vous lire et puis en petite partie vous raconter aussi. Parce qu'il est fort intéressant. Donc voilà, Ebola, Ebola, une maladie qui arrive, nanana, la grosse merde, mais bon, en même temps, c'est la nature. Ça arrive, quoi. Et là, on en est à un moment où le monde entier trouve que c'est vraiment beaucoup plus grave que ce qu'on avait pensé. Tout le monde est en danger, c'est la terreur. Mais l'article dont je parle s'interroge, il demande calamité naturelle, point d'interrogation. Pas seulement la propagation du virus n'aurait certainement pas épousé ces courbes affolantes si les pays affectés n'avaient pas auparavant subi une entreprise de destruction systématique de leur système de santé. Et ça, pourquoi ? Parce que à cause des années 90 et de ce qu'on appelait à l'époque l'ajustement structurel. L'ajustement structurel, c'est... Alors, bon, pour revenir aux bases de base, c'est que du coup, il y a eu toute cette période où le FMI et la Banque mondiale ont prêté plein de sous aux pays qu'on appelait à l'époque en voie de développement, en échange de quelques petites réformes pour garantir un peu le remboursement du prêt, quoi. Et donc voilà, toute l'histoire, la dette, blabla, c'est ça. Et du coup, c'était on vous prête de l'argent, mais en échange pour qu'on puisse vous croire que vous allez le rembourser, il faut réduire les dépenses publiques. Et réduire les dépenses publiques, ça voulait dire privatiser tout. Et donc voilà, l'article continue. Pour répondre aux injonctions de l'ajustement structurel, il fallait tout démanteler, tout liquider, tout privatiser, tout soumettre aux règles sacro-saintes du marché. Les services publics de l'eau, de l'électricité, mais aussi le secteur de la santé. Moyennant quoi, les trois pays où Ebola est vraiment fort, aujourd'hui on a une situation au point de vue santé, espérance de vie, etc., sur laquelle l'article donne un petit peu des chiffres. En Guinée, un des pays les plus pauvres du monde, l'espérance de vie à la naissance n'excède pas 55 ans. Au Libéria, c'est 54 ans et au Sierra Leone, 49 ans. Dans ces trois pays, il y a moins de 1 médecin pour 10 000 habitants. La Guinée dépensait en 2007 moins de 62 $ par an et par habitant en matière de santé. Le Sierra Leone, 32 $ par an et le Libéria, 39 $. Comment, avec des crédits aussi dérisoires, protéger les populations déjà quotidiennement exposées aux maladies transmissibles, aux conséquences meurtrières comme le paludisme, la pneumonie et les affections liées aux pénuries d'eau potable, comme le choléra par exemple, pour ne citer que ces maladies-là. L'article après il y a un toubib qui parle dedans, un toubib guinéen, il me semble, qui dit c'est difficile pour nous, d'autant plus que les premiers symptômes d'Ebola présentent la même symptomatologie que d'autres maladies tropicales comme le... Ah non, pardon, ça c'est le bouc, je voulais pas vous lire. Parce qu'il est très
ne lis pas.
Du coup on va laisser tomber ce médecin et on va sauter un petit peu après où ça redevient un peu plus intéressant. Si la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone paraissent si désarmées face à cette terrible épidémie inédite en Afrique de l'Ouest, c'est qu'à la faveur des dictatures et des guerres civiles, ces pays ont subi dès les années 90 le choc des plans d'ajustement structurel. À l'initiative des institutions financières internationales, donc le FMI et la Banque mondiale, ces agendas libéraux conditionnaient les financements des bailleurs de fonds, c'est-à-dire les gens qui prêtent de la thune, au démantèlement de services publics vitaux comme l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Donc tout ça avait dû être privatisé de façon à ce que les gens extérieurs puissent aussi investir dedans et se faire de la maille. Sous la férule du général Lansana Conté, la Guinée est allée jusqu'au bout de cette potion ultralibérale. Au point que Conakry est l'une des capitales où l'adduction d'eau potable ou le raccordement au réseau électrique font figure de privilège. Alors, après Lansana Conté, blablabla, enfin, il s'est passé plusieurs trucs là, et en tout cas, le président de la République a été élu en 2010, après une histoire de coup d'État, etc. Donc ce président Alpha Condé, opposant historique à la dictature militaire, n'a pas su inverser cette funeste tendance, malgré des promesses qu'il avait faites de faire des services de base une priorité. Et du coup, en dépit de ces énormes ressources naturelles en or, bauxite, fer, diamant, nickel, uranium, hydrocarbures, la Guinée reste une zone sinistrée en matière de santé. Le sort des pays d'Afrique de l'Ouest illustre en fait le processus à l'œuvre sur l'ensemble du continent. Globalement, l'Afrique, c'est-à-dire la partie qui est au sud du Sahara, représente aujourd'hui 11% de la population mondiale, mais plus de 24% de la charge totale de morbidité. Qu'est-ce que c'est la charge totale de morbidité ? C'est une fois qu'une maladie est déclarée, quelle chance les gens ont de mourir. Pire, cette région du monde ne représente que 1% des dépenses globales de santé. Donc 11% de la population, 1% des dépenses globales de santé, en gros, chaque personne se dépense 10 fois moins que la moyenne du reste du globe. Et attention, dans la moyenne, il n'y a pas que des pays européens et américains.
Hein. L'Afrique a toujours été très forte en statistiques, hein, de toute façon.
Ouais, ça. Avec le désengagement des États, 60% des financements dans le secteur de la santé proviennent de sources privées. Et 50% du total des dépenses de santé retournent aux prestataires privés. Dans un cycle comme ça, là, qui va du privé au privé, qui sait qu'il n'y a pas de chance, c'est les pauvres. À cela, on réserve désormais une réponse non pas sanitaire, mais finalement militaire, parce que c'est là qu'on en est. Et donc, c'était l'objet d'une réunion qu'il y a eu avant-hier, une réunion d'urgence de l'Union africaine, qui s'est tenue à Addis Abeba. Alors bon, il y a eu des petites paroles comme ça. La présidente de la commission de l'Union africaine, donc une sud-africaine elle-même, a reconnu que la crise avait mis en lumière la faiblesse des systèmes de santé dans les pays concernés. Elle a insisté sur la nécessité d'une lutte qui ne conduise pas à l'isolement ou à la stigmatisation des victimes, des communautés ou des pays, etc. etc. Mais ceci dit, qu'est-ce qui semble se dessiner comme mesure ? Ben c'est plutôt des mesures autoritaires. Et là, c'est Barack Obama qui déclare « Nous allons devoir envoyer des éléments militaires américains pour, par exemple, installer des unités de mise en quarantaine. » C'est-à-dire que, comme cette maladie fait flipper, et que, bon, de toute façon, on n'a pas de vaccin, mais c'est ça, comme ça... Enfin, c'est des pays, l'article le raconte à un autre endroit, hein, où il y a tellement pas de services de santé ou d'ambulance, par exemple, que les gens, alors que la situation est vraiment un peu extrême et que tout le monde flippe à fond de cette maladie et qu'on sait par ailleurs qu'elle est quand même pas mal contagieuse, eh ben quand on a un malade dont on est sûr qu'il a cette maladie et qu'il faut l'envoyer à l'hôpital, on l'envoie comment ? On l'envoie en bus. Tiens, en transport en commun, quoi.
Et du coup, la mise en quarantaine militaire, ça veut dire forcer les gens à rester enfermés pour crever, plus ou moins
Oui, mais pas enfermer chacun chez eux, parce qu'on a quand même pas autant de militaires que ça. A priori, ce sera des mises en quarantaine de zones.
Ouais.
Donc de quartiers, de villes, de pays. Et l'article conclut après la libéralisation et ses conséquences criminelles jusque-là dans le domaine de la santé, une nouvelle phase s'ouvre, celle de la militarisation.
Yeah.
I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter's tale. Titus and Jonicus was bound to fail. So will you if I call, I get at ya. That's suicide, man.
Et on va parler d'Irak à présent, enfin on va parler d'Irak et on va parler d'Obama qui veut monter une coalition pour faire la guerre un peu moins seul. Du coup on commence par nager en plein dans les symboles, car y a que ça de vrai. On est aujourd'hui à la veille du 13e anniversaire des attentats du 11 septembre. Obama va présenter ce soir, enfin du coup dans la nuit pour nous là, la stratégie des États-Unis pour, je cite, « affaiblir et à terme détruire le groupe terroriste ». Ça fait 13 ans déjà donc que les USA brandissent à travers le monde leur étendard de lutte contre l'islamisme, à travers le monde, leur lutte contre le terrorisme, à travers la crise économique. L'utilité et l'impact de ce cache-misère n'est plus à prouver, la peur est là, elle est bien là, distillée dans tout l'Occident. Tous les gouvernements s'en sont servis, cette peur a permis de faire passer nombre de lois atténuant les libertés. Elle légitimerait presque, aux yeux des peuples, la nécessité de la présence de tous nos dirigeants. Mais bon, quand même pas tout à fait, faut pas déconner. Je vais continuer à citer Obama. Je veux que les Américains comprennent la nature de la menace et qu'ils soient confiants dans le fait que nous serons capables d'y faire face. Il promet donc, un mois après le lancement des frappes ciblées en Irak, une nouvelle phase plus offensive, tout en restant fidèle à son credo, pas de troupes américaines de combat au sol. John Kerry, lui, qui était à Amman, et ben maintenant, qu'est-ce qu'il fait le secrétaire d'État américain ? Il se rend en Arabie Saoudite demain, où il doit rencontrer les chefs de la diplomatie des pays du Golfe, d'Irak, la Jordanie, l'Égypte et la Turquie. Cette réunion, du coup, est destinée à discuter de la question du terrorisme dans la région, des organisations extrémistes et des moyens de les combattre. On entend toujours vraiment le même discours. Et a priori, du coup, il semble donc qu'ils ne vont pas directement parler de stratégie pour garder le contrôle des puits de pétrole et du cours du pétrole non plus. Vendredi, ce sera au tour de François Hollande de monter au créneau. Il va se rendre en Irak, lui, avant d'organiser lundi à Paris une conférence internationale sur la paix et la sécurité dans le Golfe. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il compte aussi entrer en guerre a priori. Et oui, on a fini de l'Afrique, et du coup, il faut changer un peu de coin. Et puis, ça évitera qu'on parle de sa cote de popularité abyssale, des impôts et loyers impayés de Thévenot, et puis des révélations du bouquin de Tierweiler. L'Égypte, elle, qui est quand même un peu le pays clé, le pays charnière de la diplomatie dans la région, a affirmé mardi soutenir politiquement les États-Unis, tout en avertissant qu'une participation à des mesures sécuritaires devait se faire dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité, du coup pas de conflit direct. Les pays de la langue de la Ligue arabe, pardon, avaient déjà affirmé dimanche qu'ils étaient déterminés à affronter les groupes terroristes, dont EI, ce groupe ultra-radical qui fait le buzz, puisqu'il occupe de vastes territoires et en Irak et en Syrie, et où il a proclamé son califat à la fin du mois de juin, au début de l'été, quelque chose comme ça. Il y a aussi un autre scoop comme ça, puisque ça va très vite là-bas, il se passe plein de choses, il y a plein de diplomates qui ont salué la formation d'un nouveau gouvernement de rassemblement à Bagdad par le premier ministre Haïdar al-Abadi. Alors visiblement, ils ont en gros comblé des postes qui étaient vacants. Il en reste encore qui sont pas vraiment occupés, notamment tous ceux qui ont l'air d'être directement utiles pour lutter contre les islamistes là-bas. Du coup, visiblement, je pense qu'il laisse une place, enfin, j'ai compris comme ça, il laisse une place à qui va faire quoi et comment on va faire quoi ensemble. Du coup, à plein de négociations pour voir qui va finir de former ce gouvernement et comment ils vont faire la guerre, etc., etc. Sur le terrain, en tout cas, du coup, les avions américains poursuivent une campagne de frappe qui a été entamée depuis un mois sur toutes les positions de l'État islamique dans le nord de l'Irak, pour soutenir les forces fédérales et les forces kurdes qui avaient pu reprendre du coup une assez grande zone près de Mossoul. Et bien cette zone a été élargie ces derniers jours à toute la province à majorité sunnite qui s'appelle An Adbar, c'est l'ouest du Maroc. En outre, le ministre de la Défense Michael Fallon a annoncé que son gouvernement britannique envoyait pour 2 millions d'euros de mitrailleuses lourdes et de munitions aux forces kurdes d'Irak pour lutter contre les djihadistes de l'État islamique. En Syrie voisine...
C'est quand même pas mal, hein, ce truc des pays occidentaux, là. Du coup, plus personne n'a envie d'envoyer ses soldats. Mais par contre, tout le monde envoie des armes aux Kurdes, ce qui permet à la fois de... Bon, eux, ils peuvent continuer à bombarder, mais ce qui est relativement sécur pour la vie des pilotes. Et la chair à canon, du coup, c'est les Kurdes, quoi. On n'a plus à se soucier de peut-être de réactions de mécontentement à l'intérieur des pays qui financent.
C'est ça, on est dans la pleine invention de la sous-traitance militaire directe et,
ouais,
et affichée comme ça.
Je sais pas si Erdogan il est très content que les pays occidentaux filent plein d'armes aux Kurdes, parce que même si c'est les Kurdes d'Irak, on sait quand même les
armes, elles peuvent voyager. Bien sûr, ça pose un peu des questions de complications diplomatiques, mais de toute façon, cette histoire d'Irak, c'est un nid d'embrouille diplomatique de A à Z, quoi.
C'est un gros bazar. Après, effectivement, je pense que ils auraient plus de mal à s'entendre, notamment avec la Turquie, s'ils envoyaient des armes aux Kurdes syriens, par exemple, parce que du coup, là, qui sont directement plus communistes et plus en soutien aux Kurdes de Turquie, alors que les Irakiens, si j'ai bien compris, c'est quand même pas tout à fait le PKK, c'est plus des vieux régimes, etc. C'est pas non plus directement les gens qui vont rentrer vraiment en conflit, par exemple, et soutenir les Kurdes contre la Turquie, enfin, de ce que j'en ai capté, en tout cas. Même si c'est sans doute pas vrai pour tous les groupes.
Le PKK, globalement, quand il parle des organisations kurdes irakiennes, parle d'organisations féodales.
Ouais, c'est ça. Et voilà, et du coup, l'autre pays dans le voisinage où c'est aussi complètement bien un sacré bordel, on va en Syrie, du coup, où la guerre, elle fait toujours rage depuis 3 ans. Et là, il y a le nouvel émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, qui est arrivé à Damas pour sa première visite depuis qu'il a été nommé. Du coup, il reste 3 jours là-bas, où il doit évoquer avec les responsables syriens, je cite, « les perspectives d'une solution ». Voilà, splendide idée, hein. D'autant que le conflit s'est forcément compliqué cette année, puisque EI a aussi combattu en Syrie, et qui combat à la fois le régime, à la fois les rebelles, et, si j'ai bien compris, à la fois les Kurdes. Du coup, je pense que les alliances deviennent complètement aléatoires et imprévisibles.
que Bachar el-Assad a fait la proposition à la communauté internationale la semaine dernière, je crois, de se réallier tous ensemble contre l'État islamique.
Tout à fait, on a trouvé un nouvel ennemi commun et ça serait peut-être même la petite solution pour que al-Assad y reste et qu'il passe à travers comme ça, ça je pense qu'il a sauté dessus. Ouais.
Bah, il y a eu plusieurs rumeurs qui ont dit que Assad il avait fait monter les islamistes justement dans ce but-là en sachant très bien que ça allait faire front commun contre tout et en espérant que du coup lui il s'en sorte mieux.
Ouais, bah ouais. Et du coup, la dernière petite news par rapport à la Syrie, c'est dans le nord-ouest du pays, du coup plus proche de la mer et de la frontière turque, moins de l'Irak cette fois, il y aurait 28 chefs du groupe rebelle Ahrar al-Sham qui tenaient une réunion, qui ont été tués dans un attentat. Alors ça, ça a été rapporté par une ONG syrienne, mais j'ai eu beau chercher, personne n'est capable pour l'instant de savoir ni de dire qui a commis l'attaque. Du coup, on est toujours dans le grand flou magnifique de cette zone géographique.
Alors moi, tant qu'on y est, décidément là aujourd'hui, je relaye des articles que je trouve sur Internet, mais cette fois-ci c'est Rue 89. Et l'article n'est pas tout neuf, hein, il date de la fin du mois d'août, mais en tout cas, il s'attarde un peu plus sur qu'est-ce que c'est cet État islamique, d'où il sort, et des trucs comme ça. Alors je me suis dit, ma foi, ça pouvait toujours éclairer un petit peu notre lanterne, bon, un petit peu, mais... Donc voilà, alors c'est les gens qui sont engagés dans l'État islamique, c'est beaucoup se sont beaucoup appuyés sur des tribus sunnites qui étaient lassées en Irak de la politique de ce premier ministre Nouri al-Maliki là qui était l'espèce de cinglé un peu autocrate qui a été chassé du pouvoir pendant l'été là. Qui lui était chiite et qui était hyper dur avec les différentes minorités irakiennes et en tout cas avec tous les gens qui étaient pas chiites. Donc ça a pu être les mêmes yézidis qui sont aujourd'hui persécutés. Ça a pu être les sunnites, ça a pu être toutes sortes de gens, les chrétiens, etc. L'État islamique, le 29 juin, a changé de nom parce que jadis c'était, enfin jusqu'au 29 juin dernier, ça s'appelait l'État islamique en Irak et au Levant. Le Levant, ça voulait dire la Syrie. Et du coup, là, maintenant, il s'appelle juste l'État islamique parce qu'ils se sont dit que, bon, la Syrie et l'Irak, c'était petit. Et donc, c'est le 29 juin aussi que, c'était là le truc que tu te demandais tout à l'heure, là, c'est le 29 juin que le califat a été proclamé. Okay. Et le calife de ce califat, qui est donc Abu Bakr al-Baghdadi, et donc qui est le chef de l'État islamique, contrôle maintenant une région qui est à cheval entre l'Irak et la Syrie. Et puis voilà, enfin, ça continue à être la guerre. Du coup, les parties qui contrôlent pas, arrêtent pas de changer.
Moi, j'ai une toute petite question. Est-ce qu'on est capable d'expliquer ce que c'est que le califat?
Moi j'ai lu Is No Good, j'en ai une vision un peu floue comme ça. Il y a un vizir, un calife, le calife c'est le chef, le vizir c'est le premier ministre.
Alors si je ne me trompe pas, mais je me souviens plus bien là, des histoires des sunnites et des chiites, le calife je pense c'est la personne qui a le pouvoir politique et le pouvoir religieux sur une zone quoi. C'est ça. Okay. Ouais.
Et comme il s'appelle État islamique en plus du coup c'est n'importe où.
Oui, c'est ça. Oui. Enfin, dans les limites de ce qu'ils ont comme État. Mais du coup, on va y revenir là sur dans quelle mesure ce nom de État là, c'est d'où il sort. Du coup, à l'intérieur de cette zone qui était grande comme la Belgique au moment où l'article a été écrit fin août, les hommes de l'État islamique, donc voilà, bah, ils butaient tous les gens qui n'étaient pas musulmans sunnites, c'est-à-dire ils butaient les chiites, les chrétiens, les yézidis, et bon, globalement, tous ceux qui respectaient pas à la lettre la charia. Enfin, ils persécutaient en tout cas. Depuis, l'indignation qui avait été causée par la décapitation des journalistes, l'État islamique a détrôné Al-Qaïda dans le rôle de l'organisation terroriste la plus dangereuse du monde. Elle prétend toujours se transformer en État de plein exercice, théocratique et totalitaire, avec bureaucratie, police, tribunaux. Mais bon, pour l'instant, quand même, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'État islamique d'un côté, Al-Qaïda de l'autre ? L'État islamique est issu en fait d'Al-Qaïda en Irak, mais il s'est aussi construit en rivalité avec Al-Qaïda. Et c'est cette compétition qui l'a conduit aussi à être de plus en plus violent. L'été dernier, alors que ça s'appelait encore l'État islamique en Irak et au Levant, l'organisation avait pris ses distances vis-à-vis d'Al-Qaïda en Irak. Et en février, Al-Qaïda avait officiellement désavoué tout lien avec le IIL à l'époque. Abou Bakr al-Baghdadi, donc le calife, qui est chef de l'organisation depuis 2010, bah oui c'est ça, et aujourd'hui, n'a jamais accepté à l'époque où il dépendait d'Al-Qaïda le commandement de al-Zawahiri, qui était le successeur de Ben Laden. L'organisation s'est aguerrie et enrichie en Syrie ces trois dernières années en combattant à la fois l'armée de Bachar el-Assad et les rebelles laïcs, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En avril 2013, Baghdadi a annoncé dans la ville syrienne de Raqqa la naissance de l'État islamique en Irak et au Levant, du coup en tant qu'État. Les visions d'Al-Qaïda et de l'État islamique étaient par ailleurs jusque-là divergentes, puisque Al-Qaïda suit une stratégie de djihad globale, alors que, global géographiquement parlant, alors que l'État islamique en Irak et au Levant affichait des ambitions purement régionales. L'objectif d'Abou Bakr al-Baghdadi est de bâtir un califat sunnite qui aurait couvert la Syrie, l'Irak, la Palestine, la Jordanie et le Liban en obéissant aux strictes règles de la charia, mais en tout cas lui il visait pas à rendre le monde entier sunnite. Bon, c'est qui ce Abou Bakr al-Baghdadi? Alors c'est un pseudonyme qui vient de Abou Bakr, qui était qui a été le premier calife de l'islam, et Baghdadi ça veut juste dire qu'il y a un habitant de Bagdad. Son vrai nom c'est Awad al-Badari, il est né en 71, c'est-à-dire qu'il a presque mon âge. Il a fait des études islamiques à l'université des sciences islamiques Adamiya dans la banlieue de la capitale. On ne sait pas grand-chose de lui, à part que c'est quand même un sacré tacticien, semble-t-il. Et puis voilà, il est balèze en théologie aussi. Il a été arrêté par les Américains en 2005. Il a été détenu dans le camp de Bouka, dans le sud. Et il a été relâché 6 mois plus tard. Et une fois qu'il a été relâché, là, il était devenu un djihadiste dur. Il a rejoint la direction de l'État islamique en Irak, qui était à l'époque un mini-groupe qui se battait alors essentiellement contre les milices chiites, et dont il est devenu un conseiller important. Il a pris les commandes de l'État islamique après la mort de son dirigeant précédent, qui a été tué dans un raid près de Fallujah en 2010. Et depuis, il a purgé l'organisation plusieurs fois pour asseoir son pouvoir. Et c'est le genre de personne qui n'hésite pas à buter pas mal de monde si les gens sont au milieu de son chemin. Et par exemple, il y a une histoire relativement récente de massacre de 700 membres d'une tribu sunnite à Deir el-Zor, qui est une région riche en pétrole, et qui se sont fait buter par l'État islamique pour récupérer le pétrole du coin, quoi. Comment ça se passe au niveau organisation? Au niveau organisation en termes de pouvoir, c'est simple, hein, c'est al-Baghdadi qui a tout. Il est calife, du coup chef incontesté de l'État islamique, à la fois spirituel et temporel. C'est donc ça là, ce qu'on se demandait tout à l'heure. Mais alors là, toute cette question, c'est autour de ce truc de s'appeler État. Et ben, en tout cas, ils ont posé une organisation territoriale précise. L'espace qui est contrôlé entre l'Irak et la Syrie là a été divisé en 7 wilayas. Donc les wilayas, c'est le mot arabe qui veut dire plus ou moins préfecture. 4 en Syrie, 3 en Irak. Avec nomination d'un gouverneur, donc une sorte de préfet, et d'un juge islamique dans chacune de ces provinces. Les impôts continuent à être prélevés sur les populations au profit du coup de l'État islamique. Selon les responsables du renseignement américain, l'État islamique parvient à gérer des services publics de base, hôpitaux, police, ramassage des ordures. Ceci dit, visiblement, les différents observateurs qui ont été consultés par Rue89 n'étaient pas très d'accord entre eux là-dessus. Il y en a certains qui disent que l'État islamique a surtout eu l'habileté de se greffer sur les anciennes structures. Du coup, ils ont juste changé les personnes les plus importantes pour mettre des gens de chez eux, mais à part ça, ils ont juste réembauché les fonctionnaires, quoi. Enfin, ou continué d'embaucher les fonctionnaires. Et puis d'autres spécialistes disent, non mais en fait, que dalle, ils arrivent à que dalle, quoi. C'est une pure machine de guerre, et du coup, en machine de guerre, ils sont assez balèzes. Mais point de vue organiser un territoire, en fait, ils se démerdent pas du tout.
Ceci dit, si c'est juste organiser une police, c'est quand même un type de guerre. Les hôpitaux, ils sont quand même directement concernés. Ça veut dire s'ils arrivent déjà juste à ramasser les poubelles, finalement, c'est ce qui reste de l'autre qui n'est pas d'accord.
Ouais, non mais oui, mais sauf que, enfin ouais, c'est ça, effectivement, les hôpitaux, les poubelles. Même une police, en réalité, quand t'as une armée, c'est quand même pas tout à fait la même chose qu'une police. Ça, le boulot de la police, il est plus... Mais c'est ça, du coup, la question qui est pas entièrement résolue, c'est s'ils ont réussi à récupérer les anciennes administrations et les anciens services publics, ou si juste ils s'en foutaient, ils ont tout pété sur leur passage.
Ça doit pas être évident, parce que c'est pas les mêmes langues, en plus, sur les territoires contrôlés, etc., peut-être. Enfin, en fonction de... Ouais. C'est en fonction de l'endroit, la frontière, etc. Du coup, ça ne peut pas être tout simple non plus.
Mais en même temps, que ce soit en Irak ou que ce soit en Syrie, les gens ils parlent arabe. Je pense que c'est des sortes d'arabes relativement proches. Ouais. Et enfin, l'article se demandait qui les soutenait. Et la réponse est en réalité pas grand monde. Sans doute des gens qui leur filent de la thune, qui viennent un peu des pays du Golfe, mais du coup des gens en privé. Et puis autrement sur place, il y a quelques tribus sunnites qui ont été vraiment qui en ont vraiment eu marre de Nouri al-Maliki là, et qui pour ça ont un peu filé des coups de main à l'État islamique, mais voilà, on ne sait pas ce que ça va durer ce genre de soutien là, parce que c'est pas dit qu'ils soient ravis de tout ce que fait l'État islamique. Voilà, du coup, là c'est la question qui se pose pour les semaines et les mois qui viennent, c'est un peu de savoir si ce truc-là, ça aurait été une grosse montée de fièvre pour pas grand-chose, ou si finalement, ils vont s'avérer être une sorte de force qui reste, qui dure, et... En tout cas, quel que soit le l'histoire de guerre ou je sais pas quoi, là, c'est sûr que c'est quand même pas des amis, quoi.
Ça a l'air clair.
Ouais.
She was on a date with the Jones. Love's name was lost, a woman on her own. She needed two gentlemen of her own. This is real estate and I am the owner.
Alors, on va revenir en France et plus précisément à Lyon, dans le 6e arrondissement, où plusieurs familles de Roms se sont abritées début août sous un passage souterrain situé place Lyautey. Elles sont très certainement retrouvées là par défaut après s'être fait expulser de leur squat en juillet, comme ça arrive après chaque été. La mairie de Lyon expulse et exclue à tour de bras les squats des environs, enfin de Lyon et ses environs. Alors, devant la précarité de cette situation, les riverains n'ont rien trouvé de mieux que de les balancer aux flics, que de lancer une pétition et de prévenir les médias pour que cette situation cesse et que les familles soient expulsées manu militari.
Bon, expulsées de dehors, donc.
Ouais, c'est ça, expulsées de dehors, de leur souterrain. De la part des riverains, c'est triste, mais ça ne nous étonne pas vraiment. Ce qui nous étonne un tout petit peu plus, c'est que les parents d'élèves se sont joints à la pétition et ont lancé leur propre pétition, car leur école n'est pas très loin du campement et la cour de récréation de leur cher bambin se situe justement sur cette place. Bon, après quelques recherches, il s'agit des parents d'élèves de l'école privée d'à côté. Tout de suite, ça nous étonne beaucoup moins quand même.
Il n'y a pas d'école publique dans le 6e de toute façon.
Ouais, je pense qu'elle ne doit pas être beaucoup fréquentée. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est dans ce qui est reproché aux familles, il y a quand même les classiques vol en augmentation et comportement agressif. À noter que ce terme comportement agressif est apparu depuis que des préfectures font des arrêtés municipaux contre la mendicité agressive. Mais là où les riverains en ont vraiment gros sur la patate, c'est que les familles étaient présentes le jour de la fête des Folies du Pont, qui se déroule sur cette même place. Et que certaines d'entre elles en auraient même profité pour, alors là vous allez me dire, faire les poches de quelques bourges du coin. Eh ben non, pas du tout, elles en ont tout simplement profité pour faire la fête sans payer le droit d'entrée de 5 euros. Et ça, ma bonne dame, c'est tout simplement scandaleux. Surtout hein, oui, quand on sait que le 6e arrondissement est un quartier de Lyon en grande difficulté financière.
Mais parce que quoi, comme ils vivent dans un souterrain, ils en ont profité pour passer les barrières d'entrée en et ressortir par une plaque d'égout au milieu de la fête.
Exactement, je pense que ça a dû se passer comme ça.
On
part entre 10 et 15 personnes selon le Grand Lyon, 30 personnes selon les riverains. Sachant que j'ai vraiment toujours l'impression qu'il y en a
ça
beaucoup.
Ça fait au moins 50 balles de perdu. Hein.
Ouais, c'est chaud. C'est tendu. Et bien sûr, bon, bah, pour finir, toutes ces belles paroles ont bien sûr été relayées par Le Progrès et Lyon Mag sans que les journalistes ne soient allés interroger la moindre famille pour avoir, je sais pas, leur version de la situation, comment elles vivent, tout ça.
Une espèce de gauchiste.
Allez, on termine par un petit tour à Gaza où le numéro 2 du Hamas a annoncé aujourd'hui que les pourparlers indirects avec Israël pour consolider la trêve à Gaza devraient reprendre à la mi-septembre sous l'égide des Égyptiens à nouveau. Les Égyptiens qui ont récemment envoyé une délégation en Cisjordanie occupée. Moussa Abou Marzouk, le numéro 2 du Hamas en exil, qui participe à ces négociations dans une délégation qui regroupe l'ensemble des mouvements palestiniens, a affirmé devant des journalistes aujourd'hui qu'il était prévu que les pourparlers reprennent mi-septembre. En concluant le 26 août un accord de cessez-le-feu après 50 jours de conflit qui ont fait plus de 2000 morts et 11 000 blessés parmi les Gazaouis, 74 morts côté israélien, palestiniens et israéliens s'étaient donné un mois pour reprendre les discussions sur les sujets les plus épineux à propos de l'enclave palestinienne sous blocus depuis 2006. Ils avaient convenu de cesser les hostilités, mais ils avaient reporté les discussions sur les sujets du style démilitarisation de Gaza, réouverture de l'aéroport, du coup démilitarisation de Gaza, ça c'est ce que demande l'État israélien, réouverture de l'aéroport de Gaza, ça c'est ce que demande le Hamas, libération de dizaines de prisonniers politiques, ça c'est encore ce que demande le Hamas. Les Palestiniens d'une manière générale. Les Égyptiens doivent encore nous donner la date exacte de la reprise des négociations, a ajouté Abou Marzouk, alors que ces discussions indirectes se font par l'intermédiaire des renseignements égyptiens qui font la navette entre les deux délégations. Interrogé par l'FP, un haut responsable égyptien a indiqué qu'aucune date n'avait été fixée dans l'immédiat, mais qu'une délégation des services de sécurité s'était rendue la semaine passée à Ramallah, où siège l'autorité palestinienne. Côté israélien, les responsables, eux, ils disent rien. En tout cas sur la date et sur la date de la reprise des négociations, mais le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, a déjà prévenu qu'il n'y aurait ni port ni aéroport à Gaza, et il a laissé entendre que les négociations pourraient tout au plus aller jusqu'à examiner les moyens de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire et de matériaux de construction, mais attention, sous un contrôle très très strict, parce que Israël a quand même peur que s'il laisse rentrer des matériaux de construction qui soient utilisés pour creuser des tunnels ou produire des roquettes. Du coup, ils commencent par tout bousiller, mais après, ils empêchent de laisser rentrer le béton pour reconstruire. En même temps, de toute façon, comme ils vont tout rebousiller, non, pas si longtemps, vu qu'à chaque fois qu'on reconstruit à Gaza, ça redisparaît sous les bombes. Donc la question de la levée des restrictions sur les matériaux de construction est au cœur des débats après le conflit dévastateur, le troisième en 6 ans à Gaza. Après les dégâts que l'ONU qualifie de sans précédent, la reconstruction devrait coûter 6 milliards d'euros selon une estimation qui a été faite par les Palestiniens. L'Égypte accueillera le 12 octobre une conférence des donateurs, une rencontre entre acteurs internationaux qui souhaitent participer à la reconstruction de Gaza. Et voilà.
Eh ben, on va s'écouter une petite musique avant de passer à la rubrique « Il faut que ça se sache », pardon, avant de faire quelques petits réglages pour notre envoyé spécial.
Sun is shining on full blast, it's garbage day, airing my tires, and all my cares are far away, I'm looking like $1 million, feeling good and sort of frisky, plus enough money in my pocket for a quart of whiskey, tattooed teardrops, confetti, I've learned to trust my animal instincts, when farmers' fields turn to dust, this is the day we've been waiting for all our lives, so let's write letters to our parents and call our wives, raise the flag. Take a drive and raise our voices, celebrate our differences, build a bridge and praise our choices. This baby's crying and it makes it hard to go to sleep. Some days are throwaways and others you're supposed to keep. Time waits for none of us, even though my watch is slow and nothing's for certain. But I'm searching for Sasquatch and you know what? The unknown is all part of the plan for a runaway soul and a hard-loving man. Protest, I've added up to here, see you get lost. This is what we think your ideas. Protest, we're not gonna take it, we've been through it, so make a wish, break it in two. Protest, I've added up to here, see you get lost, this is what we think.
think of your ideas. Protest, we're not gonna take it. We've been through it, so make a wish and break it in two. New beginning, I've washed my hands and made my bed. Maybe I'll turn on the television or shave my head. I'm getting kinda bored with the same old cheese and crackers. My plan's all inside out, my reason's backwards. Some new air in my lungs is what the doctor ordered. Being exposed makes me feel kinda awkward, sorta. Give me a shot in the arm first, the clock's ticking. I'm watching the water boil, I like to let the plot thicken. I'm ear to ear with good intentions and vibrations. I'm on fire, sometimes I conspire with Von Squire. Sometimes we go alone over hills and through the sewers. Try to keep a edge sharp and learn a few new maneuvers. The whole world is drying up and everybody's eyes are red. It's hard to see or even try to guess at what lies ahead. But you know what? The unknown is all part of the plan for a runaway soul and a hard-loving man. Protest, we've had it up to here. See you get lost, this is what we think, your ideas. Protest, we're not gonna take it. We've been through it, so make a wish and break it in two. Protest, pad it up to here. See you get lost, this is what we think, your ideas. Protest, we're not gonna take it. We've been through it, so make a wish and break it in two. Protest. Protest.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre. Pour le moment, tu es à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dégueule les lois mises en place. Dégueule les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Alors, si tout va bien, on est en direct avec notre correspondant de Calais. Salut, salut, est-ce que tu nous entends? Alors, nous ne t'entendons pas, et merde.
On y avait cru à fond.
On y avait cru, hein.
On était prêts.
Est-ce que tu nous entends? Non. Alors, eh ben, on va passer à la première info du Faut que ça sache.
Tout à fait. Alors, bouche-trou, me voici. On va à Rome et on va parler du CIE de Ponte Galeria. Et moi, toi ce soir, Infiné, visiblement, t'es abonné aux grands articles longs. Et ben moi, je suis abonné aux chronologies. Du coup, ça va être ça. Du coup, on va dans ce CIE que je vous rappelle quand même, c'est l'équivalent des centres de rétention administrative, mais à la mode italienne. Du coup, le 4 septembre, il y avait 5 grévistes de la faim qui avaient été expulsés. Le soir, ils ont appelé d'autres prisonniers pour leur dire qu'ils avaient été expulsés en Tunisie, alors qu'ils étaient algériens. Splendide. La directrice du centre a convoqué individuellement les grévistes de la faim, qui étaient en grève depuis pas mal de temps déjà, pour leur faire cesser le mouvement, en laissant miroiter des promesses de libération d'ici quelques jours, mais qui n'avaient pas l'air d'être très appuyées par des faits tangibles. Le lendemain matin, 5 septembre, deux retenues ont demandé à être expulsées pour sortir au plus vite du centre. Alors ça, c'est quand même pas souvent que ça arrive. Et incroyable, la direction de la prison a refusé, leur expliquant qu'aucune démarche n'avait été entamée pour leur expulsion et qu'ils ne seraient pas libérés avant un long, très long moment. En conséquence de quoi ? Alors, c'est souvent les conséquences qui sont tragiques dans ces lieux-là. Les deux retenus se sont mutilés le corps avec des lames de rasoir, ce qui visiblement a provoqué l'hilarité générale chez les flics. Cette situation a provoqué bien légitimement, la colère des autres retenus. Certains ont grimpé sur le toit, tandis que d'autres ont allumé des incendies. Après environ 30 minutes, il y a des centaines de flics de l'unité anti-émeute qui sont entrés dans le camp et qui ont, malgré une forte résistance, obligé les retenus à retourner en cellule et à subir une fouille au corps. Le 6 septembre, un jeune Nigérien en grève de la faim, depuis 17 jours, a été conduit à l'hôpital où il a été nourri de force. Dans la matinée, 20 retenus ont tenté une évasion, mais ils ont été bloqués par les flics prévenus par le système d'alarme. Le soir, un rassemblement de solidarité a été organisé devant les murs du CUE, et ça, à nouveau, un groupe de retenus a réussi à monter sous les toits, et ils sont quand même fait virer à coups de canon à eau et de lacrymo. Au final, les flics les ont délogés, et le lendemain, ils ont été ramenés au CIE après qu'il y ait eu une des tentatives d'évasion. Enfin, le 9 septembre, pour une seconde journée, tous les retenus du CIE ont été maintenus enfermés dans les cellules sans pouvoir sortir. Un des 5 retenus arrêtés avant-hier a le pied cassé, mais ne peut accéder à des soins médicaux. Plusieurs retenus ont appelé de nombreuses fois les pompiers et une ambulance qui a fini par arriver. Le blessé a été transféré à l'hôpital, mais il a été soigné sur place.
Ça sache.
Alors, normalement, maintenant, nous sommes en direct de Calais. Est-ce que tu nous entends ?
Oui, bonjour à Canu.
Salut. Alors, tu es à Calais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé dimanche et ce qui se passe en ce moment à Calais ?
Bien sûr. Alors, dimanche, il y a eu une manifestation de Sauvons Calais. Sauvons Calais, pour petit rappel, c'est un groupe de droite et d'extrême droite, et il y avait des invités d'honneur à cette manif qui s'est déroulée devant la mairie de Calais, et notamment Benedetti, qui est une personne d'extrême droite notoire à Lyon. Et du coup, eux, ils étaient autour de 200. En tout cas, Nord Littoral et La Voix du Nord, les deux journaux, disent 200. Des personnes là-bas disaient plutôt 150 personnes. Voilà. En tout cas, eux, ils ont fait des discours devant la mairie. Et ce qui est rigolo, c'est que quand Benedetti a pris la parole, il y a plusieurs personnes de Sauvons Calais qui sont offusquées de ces paroles, qui trouvaient trop racistes. Et du coup, il y a notamment une femme qui s'est de Sauvons Calais qui s'est fait jeter dehors du meeting parce qu'il avait pour elle des propos trop racistes. voilà, donc ça c'est la petite anecdote. Pour montrer qu'il est, lui notamment, il a été assez décalé par rapport à la réalité calaisienne. Voilà. Et du coup, en parallèle, il y a eu un contre-rassemblement d'Antifa et de différents militants, et où il y avait, je sais pas, les journaux disent une soixantaine de personnes, moi je suis assez nulle pour compter les chiffres, mais voilà, qui a essayé de se placer devant la mairie, sauf que bah, les flics ont empêché, et du coup les gens sont un peu baladés tout autour de cette place centrale de la mairie pendant l'après-midi. Et il y avait aussi un tournoi de foot contre le racisme. Donc ça, c'était organisé pas mal par plein d'associatifs. Et du coup, on était à 800 mètres à vol d'oiseau sur un terrain de foot. Et c'était assez rigolo parce que dans le gymnase à côté, il y avait des majorettes. Vous voyez un grand rassemblement de beaucoup de familles calaisiennes pour voir leurs filles du coup danser. Et du coup ça n'a pas été sans heurts puisque à l'entrée pas mal de parents étaient plutôt hostiles aux migrants, et sur le terrain de foot pendant le tournoi nous étions un mélange de migrants, de snowboarders, d'associatifs, etc. Et le tournoi il s'est super bien passé, on a bien rigolé. À part du coup cette cohabitation un peu difficile mais néanmoins intéressante entre le gymnase et le tournoi de foot qui était sur un terrain à l'extérieur.
Allô? Oui. Et tu m'entends? Et est-ce que tu, du coup, tu peux nous raconter un peu c'est quoi l'ambiance en ce moment à Calais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des tentatives de passage des migrants pendant que toi tu y étais? Tout ça, tout ça.
Alors, en ce moment, il doit y avoir, c'est dur de compter, mais à peu près 1000 personnes. Il y a un grand squat dans le centre, là, qui s'appelle Galou, où il y a à peu près environ 200 personnes qui habitent. Et il y a plusieurs camps dans les forêts autour de Calais, où il y a, voilà, il y a plusieurs camps. Et donc, évidemment, les personnes essayent tous les jours de passer. Pour situer, en fait, je vais sur la région du Pas-de-Calais, du Nord-Pas-de-Calais. En fait, il y a donc ces lieux dont je vous parle à Calais, mais il y a 5 autres emplacements et 5 autres spots où les gens essayent de passer, qui correspondent aux aires d'autoroute. Du coup, sur les différents, du coup, sur l'axe Dunkerque-Calais et sur l'axe Arras-Calais. Et notamment, on a rencontré des gens qui filent des coups de main à des personnes dans les camps autour de ces aires d'autoroute. Et voilà. Et donc on est allé rencontrer un peu des personnes sur ces différents hauts campements qui sont autour de, vous voyez, en fonction entre 70 bornes aux environs de Calais. Et sinon, aujourd'hui à Calais, il y a eu une tentative de passage, parce que ce qui s'est passé, c'est que donc les passages, ils sont vers le port. Et quand il y a des bouchons, et du coup il y a eu cet après-midi un bouchon parce qu'il y a pas mal de migrants qui sont essayés d'aller rentrer dans le port, ce qui a occasionné un bouchon et ce qui a permis donc aux autres migrants de, quand ça se passe, ben du coup de courir vers l'autoroute et de sauter sous les camions. Et du coup nous cet après-midi on était là-dedans. Et au moment là où il y avait un bouchon, et donc au fur et à mesure la police est arrivée, et du coup il y a eu pas mal de matraquage de personnes de la part des flics, et le fait qu'il y ait des soutiens, notamment nos bordeurs, mais de militants en général, a empêché quand même un certain nombre de violence policière, puisqu'on acclamait en mode on vous regarde, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. En attendant, il y a certains migrants qui sont retrouvés dans les camions, et dans les camions ils se sont fait pas mal taper dessus. Voilà, c'est ça l'ambiance.
Et du coup, par exemple, est-ce que toi t'as eu une espèce de... Est-ce que t'as senti que les... Attends, je reformule ma question. Comment les gens là-bas, ils ont est-ce qu'ils ont entendu parler...
C'est-à-dire qui, quels gens?
Les migrants, par rapport au, t'sais, à la proposition de refaire un camp type Sangatte, mais qui serait pas vraiment Sangatte. Est-ce que là-bas, ça en parle pas tellement?
Ça en parle pas tellement. En fait, ça en parle en mode, pour l'instant, c'est une promesse et ça serait que un accueil de jour. Du coup, en fait, ça intéresse pas tant que ça les migrants, parce que eux, ils cherchent des places pour habiter le temps de passer. Et donc, un centre d'accueil de jour, pour l'instant, ça correspond pas aux demandes, puisqu'il y a déjà pas mal d'associations, et il y a la distribution des repas le soir là, à partir de 18h. Et donc, ce que les migrants font, veulent, et c'est ce que font plus Calais Migrant Solidarity et les No Borders, c'est d'ouvrir des squats pour que les gens ils puissent y habiter en permanence.
Et d'ailleurs, à propos de ces squats, il y a encore des squats ou des usines qui tiennent, ou ça a quand même beaucoup été expulsé.
Du coup, coup, il y a eu cet été cette grande ouverture du squat La Galou, où il y a 200 personnes. Et donc ça, ça a été une chouette alliance entre Calais Migrant Solidarity, No Border et quelques assos. Et ce squat, il tient et il va tenir un petit moment. Les gens, là, ils se disent qu'il va bien tenir. Et puis, il y a encore un squat d'Égyptiens, notamment. Et bah, c'est un petit squat, mais il y a pas mal de monde dedans. Et il y a cet ancien squat-là, où il y a fait pour les meufs et les enfants, et qui a été maintenant plus ou moins légalisé, puisqu'il a été délocalisé, mais c'est, on va dire, en soutien par une association. Et du coup, voilà, ce squat-là, il existe aussi.
Ok. Et est-ce que par...
Et sinon, il y a les campements autour, en extérieur.
Et est-ce que tu arrives à... Ou tu as réussi à estimer un peu le nombre de personnes qui étaient présentes en soutien? Du coup, des gens qui sont pas des militants ou militantes de Calais à la base, mais plutôt du coup, des gens qui sont
alors,
d'autres villes.
En soutien extérieur?
Ouais, exactement.
Eh ben, moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas tant que ça. On n'est pas très, très nombreux. Après, ça tourne pas mal, je pense, au fur et à mesure des semaines. Mais là, je ne sais pas. En tout cas, cette semaine, je dirais qu'on est une cinquantaine. Mais en tout cas, dimanche, on était une cinquantaine. Je pense que sur l'ensemble...
C'est déjà pas mal, ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas Notre-Dame-des-Landes, mais c'est quand même... sur des trucs comme ça, c'est...
Et notamment, il y avait surtout pas mal d'anglais. Ouais.
Mais du coup, toi, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, quand même, de présence un peu régulière de soutien extérieur à Calais. Enfin, ça arrive, je veux dire, c'est pas spécifique que à cette semaine-là. Ça arrive quand même assez régulièrement que des gens viennent, ouais, viennent à Calais en soutien à ce qui se passe, quoi.
Oui.
Dac.
Bah oui, il y a pas mal. C'est régulier. Je dirais, après moi, je pourrais pas en dire plus. Je sais que de ce que j'ai discuté avec des migrants, ils ont l'habitude de voir défiler un sacré paquet de différentes têtes. Ouais.
Alors, est-ce que, parce que là, le canu info arrive à sa fin, est-ce que toi, tu aurais un tout petit truc à rajouter que tu penserais là? Tu nous as déjà tout raconté.
Non, pas particulièrement. On prendra le temps de diffuser une interview que j'espère la semaine prochaine, de Nantes, qui est coprésidente là d'une association qui s'appelle Terre d'Errance et qui est sur Nord-en-Fonte. Donc c'est à 70 bornes de Calais et elle en soutient dans un camp à côté du coup d'une aire d'autoroute. Et elle nous a un peu raconté la situation sur ce camp-là en rentrant un peu dans les détails. Parce qu'ils se sont fait couper l'eau lundi sur ce camp-là. Et du coup il y avait une sorte d'urgence et voilà.
Ok, et eh ben merci beaucoup
merci.
Pour cet appel. Et
bonne soirée.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Ciao. Donc ça sache.
Il faut que ça se sache.
Et oui, il y avait beaucoup de choses à faire en même temps, en une demi-seconde.
C'est pas du tout le bon générique. Ce n'est pas l'heure de la chronique numérique, mais la suite de ce Faut que ça se sache en ultra speed, parce qu'il ne reste plus que 2 minutes. On va parler du prêtre Gérard Riffard, qui a été relaxé. On en avait parlé en juin dernier, au moment où il passait en procès pour accueillir son... et pour continuer à accueillir dans son église.
Tout à fait.
40 adultes et 12 demandeurs d'asile. Le parquet de Saint-Étienne avait demandé une amende de 12 000 euros et la mairie de Saint-Étienne avait déposé un arrêté municipal ordonnant l'arrêt de l'hébergement dans ce bâtiment en février 2013 pour insalubrité.
Donc la mairie de Saint-Étienne qui ne s'est pas du tout posé la question d'un retour à la rue ou quoi que ce soit. Le parquet a affirmé pendant le procès que cette situation crée un, écoutez bien quand même, un appel d'air en faveur des filières d'immigration clandestine. Voilà.
En sachant que, comme ça a été souligné par ailleurs, mais que l'État est dans l'obligation de loger les demandeurs d'asile en attendant la réponse à leur... Alors demande, c'est-à-dire que là, le ce que le parquet disait, c'est que si l'État avait respecté la loi, ça aurait créé le même appel d'air.
C'est ça, mais du coup, toi, ce que tu dis, par contre, c'est plutôt les juges qui ont dit ça, là. Ou toi, tu dis que le parquet avait dit qu'aussi l'État avait obligation.
Non, c'est moi qui dis que l'État a obligation.
Ah, oui.
C'est que du coup, dans la procédure de demande d'asile, la théorie, c'est que le demandeur d'asile, en attendant sa réponse, est logé. La pratique, c'est qu'il y en a très peu qui sont réellement logés.
Bah, c'est d'ailleurs au final ce que les juges ont dit dans leur verdict en acquittant du coup le curé au motif que déjà premièrement la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement prime sur des conditions médiocres d'hébergement. Bon, ils ont fait preuve de logique pour une fois. Et ils ont conclu qu'il est paradoxal que l'État poursuive aujourd'hui le père Riffard pour avoir fait ce qu'il aurait dû faire lui-même. Du coup ce que tu disais toi là, que l'État avait obligation d'accueillir les demandeurs d'asile. Mais bon, bah voilà, ce qu'il y a de triste dans cette histoire, c'est que le parquet a décidé de faire appel de cette décision. On espère que l'appel maintiendra le premier jugement.
Alors moi, je voulais quand même souligner rapidement que la mairie, au moment où elle a posé plainte, en tout cas, était la mairie de Saint-Étienne était une mairie de gauche. Et c'est pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais c'est bien une mairie.
Un PS.
Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est bien une mairie PS qui avait déposé plainte. Qu'aujourd'hui, le parquet fait appel, le parquet dépend directement du ministère, donc PS. Et ben, encore une fois, on vit quand même dans un pays où le Parti Socialiste est nettement plus à droite que l'Église. Et ça, c'est un peu des repères qui vacillent par rapport à il y a quelques années.
Et le nouveau maire a dit que ce jugement ne cassait pas l'arrêté municipal en question.
C'est-à-dire ?
Bah, ça veut dire que là, lui, il était en procès pour savoir s'il devait filer plein de thunes à la mairie, tout ça.
Ah oui, ok.
Et expulser les gens. Mais lui, parce qu'un arrêt municipal, on dit que ça doit se casser au tribunal administratif.
Ok.
Ce n'était pas le cas.
Très bien.
On a fini ce Canu Info, un tout petit peu en retard. Merci à Idée Noire pour nous avoir laissé quelques minutes.
Qui ont l'air de vouloir nous tuer, on dirait.
Du coup, on vous laisse avec quelques secondes de bande continue, juste le temps qu'Idée Noire s'installe, et vous retrouverez l'émission de la CGA.
À la semaine prochaine.